Chapitre 7. Paysan. 23. Storj Andibal trottinait sur la route dans la campagne entourant l'université. Ce n'était pas dans les habitudes des fondateurs de s'aventurer dans le monde rural de Trantor. Ça ne leur était pas interdit, évidemment, mais quand ils le faisaient, ils ne se hasardaient pas loin, ni bien longtemps. Jandibal était une exception, et il s'était plusieurs fois déjà demandé pourquoi. Ce qui pour lui signifiait explorer son propre esprit, une activité vivement encouragée tout particulièrement chez les orateurs, car leur esprit leur tenait lieu à la fois d'armes et de cibles, et ils avaient intérêt à travailler leur attaque aussi bien que leur défense. Jandibal avait décidé, à sa satisfaction personnelle, que l'unique raison qui le rendait différent des autres était qu'il fut originaire d'une planète à la fois plus froide et plus massive que la majorité des autres mondes habités. Lorsque, encore enfant, on l'avait amené à Trantor, pris dans les filets que jetaient tranquillement sur la galaxie les agents de la seconde fondation en quête de talent, il s'était par conséquent retrouvé dans un champ gravitationnel plus faible et sous un climat délicieusement tempéré. Et naturellement, il goûtait bien plus que d'autres les joies du grand air. Dès ses premières années à Trantor, il avait pris peu à peu conscience de sa petite taille et de sa stature chétive, et il avait craint, à s'installer ainsi dans le confort d'un monde douillet, de finir par se ramollir. Aussi avait-il alors entrepris des exercices de musculation qui, s'il ne l'avait pas rendu moins frêle en apparence, avait contribué à raffermir son corps et lui donner du souffle. Dans son programme d'exercice, il y avait ses courses dans la campagne qui avaient don de faire ronchonner certains à la table des orateurs. Mais Jandibal ignorait ces murmures. Il agissait à sa guise, malgré le handicap d'être immigré de première génération, quand tous les autres membres de la table étaient ici depuis deux ou trois générations, avec des parents et des grands-parents, eux aussi membres de la seconde fondation. En outre, ils étaient tous plus âgés que lui. Alors qu'attendre d'eux sinon des ronchonnements? Par une longue tradition, tous les esprits autour de la table des orateurs se devaient d'être ouverts, censément ensemble, bien que rares fussent les orateurs à ne pas préserver quelque part un petit coin d'intimité, certes en vain au bout du compte. Et Jandibal savait donc très bien qu'ils éprouvaient surtout de l'envie, tout comme il savait pertinemment que sa propre attitude était ambitieuse et défensive par compensation. Et eux aussi le savaient. Par ailleurs, et l'esprit de Jandibal revint aux raisons de ses escapades dans l'arrière-pays, il avait passé son enfance sur un monde intact, un monde vaste et généreux, aux paysages grandioses et variés, et dans une vallée fertile de ce monde, encerclée par ce qui restait pour lui les plus belles montagnes de toute la galaxie. Elle lui paraissait incroyablement spectaculaire, ces montagnes, dans les rigueurs de l'hiver de sa planète. Il se souvenait de son monde natal, des bonheurs d'une enfance désormais lointaine. Souvent, il en rêvait. Comment pouvait-il supporter ce confinement sur quelques dizaines de kilomètres carrés de vestiges antiques? Tout en courant, il posait sur les alentours un regard méprisant. Trantor était une planète agréable et douce, mais elle n'avait rien d'un monde âpre et magnifique. Et bien que vouée à l'agriculture, elle n'était même pas fertile. Elle ne l'avait jamais été. Cela, plus encore peut-être que d'autres facteurs l'avaient amené à devenir le centre administratif, d'abord d'une union planétaire assez lâche, puis finalement d'un empire galactique. On n'avait d'ailleurs pas vraiment insisté pour qu'elle eût une autre activité. Elle n'était, à vrai dire, guère bonne à grand-chose. Après le grand pillage, si Trantor était parvenue à subsister, c'était en grande partie grâce à ses énormes stocks de métaux. Elle était devenue une mine gigantesque, fournissant à vil prix pour une demi-douzaine de planètes des alliages d'acier, de l'aluminium, du titane, du cuivre, du magnésium, et rétrocédant de la sorte tout ce qu'elle avait pu recevoir pendant des millénaires, épuisant ses réserves à un rythme 100 fois supérieur à celui de leur accumulation initiale. Il subsistait encore d'énormes réserves métalliques, mais elles étaient enfouies et peu accessibles. Les paysans choyens, jamais ils ne se qualifiaient entre eux de trentoriens, laissant ce terme jugé par eux maléfique à l'usage exclusif des membres de la seconde fondation, s'étaient montrés de plus en plus réticents à faire le commerce des métaux. Superstition, sans nul doute. Quelle sottise de leur part, car le métal resté enfoui était bien susceptible d'empoisonner le sol et par conséquent d'en diminuer encore la fertilité. Pourtant, par ailleurs, la population était clairsemée et la terre suffisait à la nourrir, et il subsistait toujours à petite échelle un commerce des métaux. Jean Dibal parcourut des yeux l'horizon plat. Trentor avait une activité géologique, comme presque toutes les planètes habitées, mais il fallait remonter à 100 millions d'années au bas-mot pour retrouver les dernières traces notables d'une phase d'orogenèse. Ces quelques reliefs s'étaient érodés en de molles collines, et à vrai dire, on en avait rasé la plupart lors de la grande période de caparaçonnage de la planète. Loin vers le sud, bien au-delà de l'horizon, se trouvait le rivage de la baie capitale, et au-delà, l'océan oriental, recréés l'un et l'autre au moment de la rupture des citernes souterraines. Au nord, c'étaient les tours de l'Université Galactique qui cachaient le bâtiment comparativement trapu, quoique vaste, de la bibliothèque. Elle était en majeure partie souterraine. Et les vestiges du palais impérial, encore plus au nord. Immédiatement de part et d'autre, on apercevait les terres cultivées, avec ça et là une bâtisse. Jean Dibal dépassa les groupes d'animaux, vaches, chèvres et volailles. Le vaste assortiment de bêtes domestiques qu'on trouvait dans n'importe quelle ferme trentorienne. Pas un ne lui prêta la moindre attention. Jean Dibal se prit à songer que partout dans la galaxie, sur n'importe lequel des innombrables mondes habités, il pourrait voir ces animaux, et qu'il n'y avait pas deux planètes où ils fussent parfaitement semblables. Il se rappela les chèvres de chez lui, et en particulier la petite biquette qu'il trayait jadis. Elle était bien plus grosse, et elle avait bien plus de caractère que ces placides spécimens qu'on avait acclimatés sur Trentor depuis l'époque du grand pillage. Sur toutes les planètes colonisées de la galaxie, on trouvait un nombre presque incalculable de variétés d'une même espèce domestique, et chaque spécialiste ne jurait que par sa variété préférée, que ce soit pour la viande, le lait, les œufs, la laine, ou toute autre denrée que ces animaux puissent produire. Comme d'habitude, pas un choyen n'était visible. Jean Dibal avait le net sentiment que les paysans évitaient de se trouver en compagnie de ceux qu'ils baptisaient « les chercheurs » par une déformation dialectale, peut-être délibérée du mot « chercheur ». Superstition, encore. Jean Dibal leva un instant les yeux pour contempler le soleil de Trentor. L'astre était déjà haut dans le ciel, mais sa chaleur n'avait rien d'insupportable. Sous cette latitude, la chaleur restait douce et le froid ne se montrait jamais vif, au point que Jean Dibal en venait à regretter les froids mordants de sa planète natale. Du moins l'imaginait-il, car il n'y était jamais retourné. Peut-être, reconnut-il, pour s'éviter une désillusion. Il sentit avec plaisir ses muscles durcis et raffermis par l'effort, et estima qu'il avait assez couru. Il continua en marchant, respirant profondément. Il se sentait prêt à affronter la prochaine réunion de la table, prêt à fournir un ultime effort pour provoquer un changement de politique, créer une mentalité nouvelle qui admettrait enfin l'existence de la menace croissante venue de la première fondation, ou d'ailleurs, et qui mettrait enfin un terme à cette confiance aveugle dans un fonctionnement parfait du plan. Mais quand se rendrait-il compte que la perfection même était le plus sûr signe de danger ? Un autre que lui l'aurait-il suggéré, l'idée, il le savait, serait passée sans soulever de vagues. Les choses étant ce qu'elles étaient, il y aurait certainement des remous. Mais ça passerait néanmoins puisque le vieux Chandes le soutenait et continuerait sans doute à le soutenir. Chandes n'avait pas spécialement envie d'entrer dans l'histoire comme le premier orateur à partir duquel la seconde fondation avait commencé de dépérir. Un choyen. Jean Dibal sursauta. Il avait détecté dans le lointain la présence d'un esprit bien avant d'apercevoir l'homme. C'était l'esprit d'un choyen, un paysan rude et mal dégrossi. Prudent, Jean Dibal se retira, après l'avoir effleuré si légèrement qu'il était resté indétectable. À cet égard, la politique de la seconde fondation était sans équivoque. Sans le savoir, ces paysans lui servaient de camouflage, et il fallait interférer avec eux le moins possible. Quiconque venait à Trentor pour affaires ou tourisme n'y découvrait que des paysans, et peut-être quelques chercheurs de seconde zone vivant complètement dans le passé. Qu'on ôte les paysans, ou simplement qu'on pervertisse leur innocence, et aussitôt les chercheurs se feraient plus aisément remarquer, au risque d'entraîner des conséquences catastrophiques. C'était l'une des démonstrations de base que les néophytes étaient censés faire tout seuls dès leur entrée à l'université. Sitôt qu'on influait un tant soit peu sur l'esprit des paysans, les monumentales déviations que présentait alors le premier radiant étaient absolument stupéfiantes. Jean Dibal vit l'homme. C'était un paysan, sans aucun doute, choyen jusqu'à la moelle. Presque une caricature du fermier trentorien typique. Grand et large, le teint basané, vêtu grossièrement, les bras nus, le cheveu brun, l'œil sombre, l'air dégingandé. Jean Dibal ne ralentit pas son allure. Ils avaient assez de place pour se croiser sans un mot ni un regard, et ce serait tant mieux. Il décida de rester à bonne distance de l'esprit du paysan. Jean Dibal s'écarta légèrement, mais le fermier ne l'entendait pas ainsi. Il s'arrêta, bien campé sur ses jambes, et, les bras largement ouverts pour lui bloquer le passage, lança
« Oula ! Mais ça serait-il pas un chercheur ?»
Jean Dibal ne put malgré lui s'empêcher de sentir une pointe d'agressivité dans l'esprit de l'homme en face de lui. Il s'immobilisa. Impossible de passer sans lier conversation, ce qui, en soi, était déjà une corvée. Quand on était accoutumé aux jeux subtils de mimique et de son, au rapide échange de pensées et de sentiments dont la combinaison permettait au second fondateur de communiquer entre eux, il devenait lassant de s'en remettre à la seule combinatoire du langage oral. C'était comme de vouloir déplacer un rocher du bras et de l'épaule quand on avait un pied de biche à portée de la main. Jean Dibal dit d'une voix calme et scrupuleusement dénuée d'émotion. « Effectivement, je suis un chercheur. »«
Ah, je suis un chercheur ! Ça serait-il qu'on parlerait l'étranger à cette heure ? Mais c'est qu'il en serait ben, hein ?»
L'homme fit une révérence moqueuse.
« Avec son air de petit roquet battu ben palichon ?»«
Qu'est-ce que vous me voulez, choyen ?» demanda Jean Dibal aucunement démonté.
« Je me nomme Ruffiran, Carole de mon prénom. »
L'accent s'était fait encore plus pesamment choyen. L'homme roulait fortement ses airs. Jean Dibal répéta.
« Qu'est-ce que vous me voulez, Carole Ruffiran ? Et comment que c'est votre nom à vous, le chercheur ?
Que vous importe, vous pouvez continuer à m'appeler chercheur.
Ça n'importe que quand je pose une question. J'aimerais bien qu'on y réponde, petit roquet de chercheur.
Eh bien, dans ce cas, je me nomme Store Jean Dibal. Et je m'en vais à présent vaquer à mes affaires.
Et c'est quoi les affaires du chercheur ?
Jean Dibal sentit la chair de poule lui gagner la nuque. D'autres esprits étaient présents. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que d'autres choyens se trouvaient derrière lui. Et plus loin, d'autres encore. Le paysan dégageait une odeur puissante. « Mes affaires, Carole Ruffiran, ne vous regardent certainement pas. »«
Ah ! C'est tout ce qu'on me dit ?»
Il éleva la voix.
« Oh les gars ! Le chercheur, il dit que ses affaires nous regardent pas !»
Il y eut un rire derrière lui, puis une voix lança.
« La bonne raison, vu que leurs affaires, ça rien qu'à fouiner dans leurs bouquins, l'ordinateur, et que tout ça, c'est point des affaires d'honnête homme. »
« Quelles que soient mes affaires, » dit fermement Jean Dibal, « j'y retourne de ce pas. »«
Et comment quiconque y retourner, notre petit chercheur ?»
demanda Ruffiran. En vous passant devant.
« Il veut essayer ? La point peur de se faire arrêter ?»«
Par vous et vos acolytes ?
Ou par vous seul ?»
Puis Jean Dibal enchaîna soudain avec un fort accent choyen.
« L'aurait-il donc peur tout seul ?»
Ce n'était pas à proprement parler très judicieux de l'asticoter ainsi, Mais ça empêcherait déjà une attaque en masse et la chose était vitale s'il voulait éviter de s'immiscer plus avant. Son coup marcha. Ruffiran prit un air encore plus sournois avant de lancer
« S'il veut qu'on cause de peur, le bouquineux, astrait plutôt de son côté. Hé, les gars, dégagez donc, écartez-vous et laissez-le passer qui voie ici que j'ai peur tout seul. »
Ruffiran leva ses grands bras en faisant des moulinets. Jean Dibal n'était guère effrayé par sa science pugilistique, mais il fallait toujours compter avec le risque d'un mauvais coup bien placé. Il approcha donc prudemment, s'immisçant par un contact aussi bref que délicat dans l'esprit de Ruffiran. Il n'avait fait que l'effleurer sans qu'il s'en doute, mais ça lui avait suffi pour ralentir d'un rien ses réflexes, un rien crucial. Puis, il ressortit de son esprit pour effleurer mentalement les autres qui s'assemblaient à présent de plus en plus nombreux. Son esprit d'orateur voltait de l'un à l'autre en virtuose, sans jamais s'attarder assez longtemps pour laisser une marque, mais suffisamment toutefois pour déceler éventuellement des indices utiles. Il s'approcha du paysan, tel un félin, restant sur ses gardes, surveillant les autres et soulagé de constater que personne ne faisait mine d'intervenir. Ruffiran frappa soudain. Mais Jean Dibal visualisa le coup avant qu'aucun muscle ne se fût contracté, et il l'esquiva. Le poing fusa en sifflant, le manquant de justesse. Pourtant, Jean Dibal demeurait toujours immobile, inébranlable. Soupir collectif chez les autres. Jean Dibal ne fit aucun effort pour parer ou pour rendre les coups. À les parer, il aurait risqué de se paralyser le bras et les rendre n'aurait servi à rien, car le fermier aurait pu y résister sans peine. Il n'avait d'autre choix que de manœuvrer l'homme comme s'il s'était agi d'un taureau que l'on force à charger. Voilà qui le démoraliserait plus sûrement qu'une opposition directe. Rugissant comme un bovidé, Ruffiran chargea. Jean Dibal était prêt et se coula de côté, juste de quoi laisser le fermier manquer sa prise. Encore une charge, encore ratée. Jean Dibal sentit sa respiration devenir sifflante. La dépense physique était certes minime, mais l'effort mental exigé pour contrôler sans contrôler vraiment était prodigieusement difficile. Il ne pourrait pas le soutenir bien longtemps. Jean Dibal lança d'une voix le plus calme possible. Tout en travaillant en douceur chez son adversaire le mécanisme de la résistance à la peur et en essayant, par petites touches, de réveiller en lui cette immanquable terreur superstitieuse des lettrés. Je m'en vais à présent retourner à mes occupations. La rage déforma les traits de Ruffiran, mais durant un bref instant, il ne bougea pas. Jean Dibal percevait ses réflexions. Le petit lettré s'était évaporé comme par magie. Il sentait croître à présent sa terreur, et pour peu que... Mais la rage du choyen grimpa d'un cran. Engloutissant sa terreur, il hurla.
« Hé, les gars, notre chercheur fait le danseur. C'est qu'il a le pied agile et qu'il se moquerait des règles honnêtes du combat coup contre coup. Attrapez-le et tenez-le bien qu'on échange des coups comme il faut à présent. Il peut commencer, je lui fais une fleur et je le... C'est moi qui finirai. »
Jean Dibal repéra les trous dans le cercle de ses assaillants. Sa seule chance était de maintenir assez longtemps une faille pour s'y engouffrer, puis de foncer, en comptant sur son souffle et sa capacité à engourdir la volonté des paysans. Il esquiva les assaillants, l'esprit crispé sous l'effort. Mais ça ne pouvait pas marcher. Ils étaient trop nombreux, et l'obligation de se plier à la déontologie trentorienne était par trop contraignante. Il sentit des mains lui agripper les bras. Il était pris. Il allait bien être obligé d'interférer avec quelques-uns au moins de ses esprits. Acte intolérable qui signifierait la fin de sa carrière. Mais sa vie même était en jeu. Comment en était-il arrivé là?